Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors.
Oui.
Je vais faire passer le micro.
Merci. Pour Gérard Klein, quelle est la place des textes utopiques qui ont été extrêmement nombreux, aussi bien en Nord-Amérique qu'en Europe, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'à, je dirais, les années 20-30, dans cette transmission des traditions, est-ce que ça aussi, ça s'est transmis?
Alors, c'est un immense sujet que tu soulèves, et je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu l'introduire dans mon topo, qui portait vraiment sur la transition des années 50. Enfin, c'est ce que Natacha m'avait suggéré d'aborder. D'abord, c'est un sujet que j'ai effleuré, donc je ne connais pas très bien. Il y a une très bonne thèse qui est trop peu connue là-dessus, qui est parue en 1950, enfin, notamment là-dessus, qui est parue en 1950, qui s'appelle L'Utopie et les Utopies de... quelqu'un peut-il me rappeler le nom de son auteur? L'Utopie et les Utopies
de Raymond
Ruyère. De Raymond Ruyère. Bon, qui est un truc fondamental. Bon, alors, de façon générale, mais je ne peux pas rentrer dans le détail parce que j'entraînerais beaucoup trop loin, je pense qu'à partir, en effet, des années 20-30, l'essentiel des utopies ont été absorbées par la science-fiction, prise dans un sens large, et que ce soit dans le domaine européen, enfin français, je connais un peu mieux, ou anglo-saxon, enfin, je pense que c'est la même chose. La science-fiction a tout absorbé. Non, je ne crois pas qu'on puisse ici détailler les utopies à la fin de... qui, dans la dernière partie du 19e siècle, en tout cas dans le domaine français, ça décline quand même fort. Ah, il y a le très bon travail de, comment il s'appelle, l'utopie collectiviste de mon ami Marc Angenot, que tu connais peut-être, qui porte pas à proprement parler sur les utopies, mais sur un dépouillement systématique de la presse, et en particulier de la presse, disons, de gauche, pour faire vite, enfin de la presse sociale, dans les années 1890-1900, si je me souviens bien. Ça aussi, c'est un texte qui est paru dans les années 1980 en France, qui mérite d'être lu, et les livres qu'Arjo a acquis ensuite aussi. Je veux dire que j'ai été extrêmement choqué quand, dans le dictionnaire des utopies qui est paru chez Larousse, il n'y avait pas une seule mention d'Angenot. Je me suis d'ailleurs engueulé assez férocement avec la directrice de ce dictionnaire. Moi-même, j'ai eu une figure. Mais alors Angenot avait deux travers en France épouvantables. Il est belge et il enseigne au Canada.
D'autres questions? Donc, oui. Donc, Philippe.
Oui, à nouveau pour Gérard Klein. Concernant le mythe de la rupture, alors moi j'avais en tête, mais c'est une. Maintenant, les lectures sont anciennes, donc la mémoire est un peu affaiblie, qu'il avait été accrédité notamment ici, en France, par Jacques Sadoul, me semble-t-il, dans son histoire, et peut-être aussi par Henri-Luc Planchat dans La frontière à venir, autour, hein, qui avait fait tous deux, pour peut-être, et là je n'ai plus tellement de souvenirs pour leurs arguments, de 1950 au 45-50, une véritable charnière.
Oui, alors je me souviens plus très bien du texte de Planchat, mais enfin, si Sadoul, je me souviens mieux, puisque j'ai édité son histoire de la science-fiction, qui est tout sur une histoire, c'est fondamentalement une relecture de ses pulps, de ce qu'il a édité, auquel il a rajouté sous impression une histoire de la science-fiction française qui vient dans l'édition Ailleurs et Demain et qui n'existait pas dans l'édition antérieure, chez Albin Michel et chez... Bon. Alors, Kat Sadoul, il faut bien dire une chose, c'est que Sadoul a toujours éprouvé un assez profond désintérêt pour tout ce qui s'est passé en France. C'est un grand connaisseur et un grand collectionneur de la science-fiction anglo-saxonne, et tout très spécifiquement américaine. D'autre part, l'idée du clivage, c'est pas le seul, le sert. C'est un peu comme je le disais, du petit groupe Vian, Gast, enfin, qui voudrait, même Pilotin, c'est Franz Priel. Bergy avait une attitude assez différente, mais c'était une façon de se mettre en avant. Bon, alors pour Jacques Sadoul, mais je ne crois pas du tout qu'il le pense vraiment, ni qu'il le dirait, la science-fiction a commencé à exister quand il en a publié en 1971. Bon, c'est une conception d'histoire, mais enfin... Bon, alors le bouquin de Blanchard, c'est quoi ? Ben, sauf de ma part, c'est moi qui l'ai publié. Je ne crois pas non plus qu'il fasse... Enfin, il y a deux aspects qu'il faudrait prendre en compte. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il dise ça. Il faudrait d'autre part resituer cette frontière à venir dans son contexte de l'époque et dans ce qu'on savait à l'époque sur, en particulier, la science-fiction américaine et enfin anglo-saxonne en général, américaine en particulier, et même sur l'histoire passée de la science-fiction française. Ce qui manque terriblement pour les auteurs français, Sadoul d'ailleurs et Blanchard, je ne sais pas très bien, mais c'est le grand problème des Français, c'est à l'exception de quelques-uns, c'est leur méconnaissance profonde de la dimension en profondeur dans le temps de la science-fiction française. Je disais que nous n'avons pas à l'heure actuelle d'histoire de la science-fiction française depuis le XVIIIe siècle, ou au moins le début du XIXe, et ça manque. Nous avons des documents, qui sont d'ailleurs parfois un peu polémiques, comme surtout le Van Herp, tout à fait conscient du fait que son créait là un trou qui n'existait pas, ou lui montrait à toute force que la science-fiction française ou européenne, c'est très important, et que ça pourrait tout à fait soutenir la comparaison avec les Américains. Il a peut-être été un peu loin dans cette direction. Bon, Versin a un peu le même souci, Versin ne connaissait pas très très bien la science-fiction américaine. Donc chaque fois un texte, il faut le situer dans son époque et dans son contexte. Enfin, ni Sadoul, ni pour autant que je me souvienne Blanchard, sont à proprement parler des références incontournables. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Merci Gérard.
J'ai publié les deux, alors je suis coupable.
Oui, Gérard.
Oui, je souhaiterais poser, avant d'arrêter hein,
cette
pause et cette discussion, deux questions à Alexandre Massinski et puis à Hervé Dugoguet. Donc, je commence dans l'ordre des communications. Le Monde, donc vous avez parlé des nouvelles qui ont précédé, mais du gros roman de 2006. Dans son titre même, il me semble qu'on saisit cette évolution qui est perceptible dans votre communication. Il y a dans ce monde enfin, même si c'est la destruction donc, de l'humanité, etc., par les armes, etc., une idée de... On retrouve le mythe eschatologique qui repose sur la fin et la renaissance. Enfin, il y a vraiment cette idée d'espoir. Hein, vous pouvez le confirmer ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est le monde enfin, la parenthèse du bel se referme. Et donc, le monde redevient ce qu'il était avant l'apparition de l'homme. Donc,
mais même dans la nature, même dans la description de la nature détruite, il y a la nostalgie de ce qu'elle fut et l'espoir qu'elle renaisse.
Qu'elle redevienne ce qu'elle fut.
C'est bien ça.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Nous avons peu de temps, mais...
Oui, j'essaie d'aussi bref que possible. Enfin, je trouve que la première version du Monde enfin, c'est moi qui l'ai publié, dans une certaine mesure, qui l'ai même suscité. Je crois que c'est pas un très grand optimiste, puisque c'est le monde renaît parce que l'homme a disparu, et seulement à cette condition. Bon, alors le monde qui renaît, c'est un monde sans humain. C'est un des grands thèmes d'Andrevon d'un bout à l'autre. C'est toi qui me contrediras. Bon. Moi, je crois que très brièvement, mais ce qui aurait été intéressant, mais ça devenait un autre sujet, c'est d'introduire ou de réintroduire Andrevon dans une très vieille tradition de la science-fiction française qui remonte aux années 1830. Bon. 1843, c'est Émile Souvestre, Le Monde tel qu'il sera, qui est une anti-utopie anti-industrielle. Et bon, à l'autre extrémité, on va avoir le bouquin de Zola, qui doit dater du tout début du XXe siècle, une des dernières comment il appelait ça, évangile, un des derniers évangiles, je ne sais plus si ça s'appelle La Terre ou comment. Alors, dans cette tradition de la science-fiction prise au sens large française, on a constamment cette opposition entre industrie et ruralité. Je rappelais qu'en 1950, la France était une société profondément rurale, et c'est un clivage qu'on constate encore politiquement aujourd'hui. La France n'a jamais, il y a une partie de la France qui n'a jamais accepté l'idée de la modernité, de la scientificité, de l'industrialisation. Et c'est ce qu'illustre parfaitement Dragon dans toute son œuvre. Il est du côté du rural, de la nature, et donc sans homme de préférence. Mais il y a une histoire qui là aussi reste à écrire, qu'on connaît à peu près, qu'on devine à peu près, mais qui reste à écrire de ce conflit permanent. Conflit qu'on ne retrouve pas sous cette forme, il existe, mais avec les pré-raphaélites, avec le début de la fantaisie britannique, etc., mais qui n'existe pas sous cette forme dans d'autres pays, qui est vraiment très spécifique à la France, et qu'on peut faire remonter à l'après-révolution, après-empire, en gros, la restauration. C'est quand même étrange, un courant comme ça, qui pratiquement pendant deux siècles se poursuit, enfin, il y a un fil rouge. Ça vaut la peine de faire une étude.
Oui, alors vous me permettez, Natacha, de poser la dernière question, donc troisième communicant. Donc ce corps mosaïque dans ce cyberpunk, vous avez parlé de narcissisme protéiforme. Est-ce que le mot narcissisme n'est pas un peu contradictoire avec la conséquence de ce déplacement des frontières du corps et donc de l'identité, peut-être?
Non, je ne pense pas que ça soit contradictoire, parce qu'il y a déjà dans quasiment dans le cyberpunk une sorte de, pas de contradiction, mais c'est de complémentarité. Et donc on peut être à la fois soi et multiple dans le cyberespace. C'est ça qui permet à l'individu d'être à la fois lui-même et plus que lui-même. Donc de créer une autre identité, de se créer autant d'identité qu'il veut, et parfois même de se perdre là-dedans. C'est ce que le cyberpunk attire aussi l'attention là-dessus.
Si je peux ajouter un mot là-dessus, bon, il est un peu extrêmement très rapide. Mais je dirais que, autant que je puisse parler en tant que tel, pour le psychanalyste, c'est tout à fait ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, le narcissisme n'est pas caractérisé par le repli sur soi, il est caractérisé par le fait qu'on n'est reconnu dans le monde que le reflet du soi.
Très bien. Merci donc à tous les trois.
Merci à tous les trois, vraiment, pour cette première partie. Et maintenant, donc, je vous invite à...